One, two, three, four. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre heure de vie lausannoise au travers de ce grand direct. Je suis très heureux de vous retrouver ce mardi 1er mai pour une 144e émission du grand direct. Oui Daniel, surprenant hein.
Plutôt.
Nous allons vous parler ce soir de grève féministe, nous allons parler ce soir de poésie comme expression d'asile, d'exil même, et de cinéma. Et nous allons commencer avec toi Claudia, bonsoir.
Bonsoir.
Nous allons attaquer évidemment dans Vivre à Lausanne avec la traditionnelle pause syndicale puisque nous sommes le 1er mai, premier mardi du mois. Il ne sera pas question de travail ce soir mais de grève féministe.
Oui exactement, à 17 ans de distance, une grève se prépare pour le 2019. En 1991, 500 000 de femmes étaient descendues dans la rue, elles avaient accroché les balais aux fenêtres en signe de proteste. Et puis avec Geneviève de Ram, du syndicat du service public, on va découvrir qu'est-ce qui se prépare pour le 2019.
Ah ben voilà, on prend un petit peu d'avance déjà. Geneviève de Ram, que nous connaissons bien ici sur Radio Django, et vous aussi si vous êtes des fidèles auditeurs. À 18h20, ce sera La Rose des Vents avec toi, Daniel, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Nous allons parler ensemble de poésie, nous allons même faire de la poésie et l'utiliser comme outil contre l'exil.
Absolument. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer à Bibliomédia au mois de mars, dans le cadre du printemps de la poésie, Fabiano Alborghetti. Il reviendra sur son livre publié dans une première version en 2006 et réédité en 2010 pour parler justement de ces migrants qu'il a rencontrés autour d'une immersion un peu singulière qu'on découvrira dans le cadre de cette émission.
Et ben voilà qui est parfait. Et puis à 7h20 dans Cultiver Lausanne, ce sera avec toi Jean-Luc, bonsoir.
Salut Fabien.
Nous allons, après le hoblo la semaine dernière, nous allons continuer à parler cinéma avec le programme du City Club.
Mais
ce
oui,
soir.
Exactement. Nous avons invité Nicolas Viter, chargé de la communication. Oui. Il viendra nous présenter le vaste programme. Je confonds, je vois.
Mais oui, voilà le programme de ce soir, la pause syndicale, de la poésie et le City Club. C'est le programme de ce numéro 144 du Grand Direct à écouter sur radio.django.fm et sur le DAB de La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue à vous dans ce Grand Direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Bienvenue à toi Claudia, nous allons faire ensemble cette pause syndicale et avec Valérie qui n'est malheureusement pas avec nous ce soir car elle est en train de manifester pour le 1er mai, mais vous avez préparé ensemble un reportage à ce sujet qui nous amène à découvrir une grève des femmes qui se prépare cette fois-ci pour l'année 2019.
Alors exactement Fabien, la Suisse, suivant l'exemple de différents mouvements féministes qui sont en train de naître un peu dans tout le monde, en Argentine, Pologne, aux États-Unis, prépare une série d'activités, manifestations pour mobiliser le maximum de femmes et revendiquer une véritable égalité dans tous les domaines de la vie.
La grève qui se prépare pour l'année prochaine donc n'est pourtant pas la première en Suisse.
Tout à fait, en 1991, 500 000 de femmes étaient descendues dans la rue de toute la Suisse. Elles n'étaient pas allées travailler, elles avaient accroché des balais aux fenêtres en laissant les hommes à la maison pour s'occuper du travail domestique. Et grâce à cette mobilisation, elles avaient réussi à faire adopter la loi sur l'égalité en 1996.
Et puis, à 17 ans de distance, donc une nouvelle grève qui se prépare. Mais quelles sont les différences aujourd'hui? Qui sont les femmes et les mouvements qui se mobilisent? Valérie et toi, Claudia, vous avez rencontré Geneviève de Ram, membre du SSP, le syndicat des services publics, et une des organisatrices de la grève de 1991 pour répondre à ces questions. On écoute en commençant par des extraits qui montrent bien l'ambiance de la grève féministe qui a été organisée en Espagne le 8 mars passé.
Es tremenda la movilización, es tremenda, es histórica la imagen.
Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga.
Todas somos protagonistas de este trozo de la historia. En cada casa ha habido un comité de huelga. En cada centro de trabajo ha habido un comité de huelga porque donde estaban las mujeres estaba la huelga feminista. ¡Gracias a todas, todas, todas!
Huelga compañera, no vayas a trabajar, deja el cazo, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, mi.
Une atmosphère qui reflète l'ambiance en Espagne le 8 mars passé, quand des millions de femmes se sont mobilisées pour faire la grève. Des mouvements de femmes en colère voient le jour un peu partout, en Argentine, en Pologne, aux États-Unis, dans le cadre d'un renouveau du mouvement féministe. Est-ce que ce sont ces mouvements qui vous ont inspiré, Geneviève Desrames ?
Oui, partiellement. Ils m'ont fait particulièrement plaisir parce que j'ai connu le grand mouvement féministe des années 70. J'ai connu la grève des femmes de 91. Ces dernières années, c'était un peu calme et tout à coup, on s'est dit « Waouh, ça revient !» C'est magnifique.
Donc, comme on l'a dit dans l'introduction, il y a une idée d'organiser une nouvelle grève des femmes en 2019. D'où vient cette idée et surtout pourquoi ?
Ce qu'il y a, c'est qu'en 91, on avait fait une grève parce qu'on avait voté 10 ans auparavant un article sur l'égalité entre les hommes et les femmes qui était resté sans effet. Hein. Donc, on s'est dit, maintenant, on y va, hop, salaire égal pour un travail égal ou de valeur égale, les mêmes droits pour les hommes et les femmes. Et en 96, ça a donné la loi sur l'égalité, ça a donné une série de modifications légales qui ont été de bonnes choses, mais... Aujourd'hui, on est toujours avec 20% de salaire de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Et c'est toujours les femmes qui réalisent l'écrasante majorité du travail qu'on appelle de reproduction sociale. Tout ce travail qui n'a pas l'air d'être du travail, qui a être juste de l'amour et de la gentillesse, mais qui est du travail.
Et pourquoi une grève ? En quoi c'est un outil de revendication à utiliser par rapport à ce que vous venez de dire ? Surtout dans un pays comme la Suisse où les grèves sont beaucoup moins fréquentes par rapport à des pays voisins comme la France.
Justement, parce que c'est dû, on s'attaque à la répartition du travail salarié et du travail bénévole. Et la grève est le moyen approprié pour revendiquer tout ce qui se concerne le travail.
Dans les messages que vous avez diffusés dans vos réseaux, vous parlez d'une grève inventive et multiple. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, il faut se rappeler la grève des femmes de 91 ici en Suisse, où 500 000 femmes s'étaient mobilisées, certaines sur leur lieu de travail, d'autres dans leur quartier, avec les voisines, avec les copines, etc. Et ça avait été extraordinairement inventif. Le fondement, c'était de dire « Aujourd'hui, je ne fais pas de travail non rémunéré ». Je ne fais pas de travail bénévole. Donc, les femmes avaient suspendu les balais à la fenêtre, elles avaient organisé des rencontres, des pique-niques, elles avaient organisé que ce soit les maris qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de faire le repas de midi, etc. Ça avait été une journée complètement en dehors de la routine habituelle. Et c'était ça l'inventivité de la grève de 1991. C'est l'inventivité... On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Donc, on verra bien qu'est-ce qu'on arrive à construire pour une grève féministe en Suisse prochainement.
Alors, avant de nous raconter comment vous allez construire et inventer cette grève, on va retourner en 1991 et on va écouter l'ambiance de ces jours de grève en Suisse. On écoute.
Cette boulangerie du Roux emploie pas mal de femmes pour le service et pour la vente. Et il y avait notamment dernièrement 3 femmes clandestines faisant 50 heures par semaine, payées 1500 francs par mois.
Des fleurs en passante, des pots de peinture pour les cinémas porno. Ah
Dans la cour de l'immeuble de Madame Pellot, elles sont 200 ou 300 à avoir délaissé aspirateur ou machine à écrire pour fêter l'anniversaire de l'égalité.
Suite à cette grève du 14 juin 1991, qu'est-ce que les femmes ont obtenu ?
Alors, on a obtenu une série de modifications dans les lois. D'abord, la loi sur l'égalité, mais on a aussi obtenu, dans l'AVS, quelque chose de très important, qui est que pour la période où un couple travaille les deux, les cotisations sont additionnées et données moitié à monsieur et moitié à madame. Ça s'appelle le splitting, et c'est ce mécanisme-là qui permet de garantir que dans l'AVS, les rentes que touchent les hommes et les femmes à la retraite sont équivalentes, alors que dans le deuxième pilier, où c'est chacun pour soi, les caisses de pension versent en moyenne des rentes qui sont un tiers inférieures pour les femmes que pour les hommes. Ça, c'est une des améliorations que l'on a eues. Ce qu'on a eu aussi après la grève de 91, c'est plus de femmes qui se sont engagées en politique, plus de femmes élues. Après, il y a eu toute une campagne aussi du côté des milieux patronaux pour avoir plus de femmes parmi les cadres. Tout ça a eu des résultats limités. Mais enfin, ça a quand même bougé un peu les choses.
27 ans après, les femmes se préparent à se mettre à nouveau en grève. Si on compare la situation des femmes à l'époque et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ou pas changé en 27 ans ?
Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, qui ont travail salarié, mais souvent à temps partiel, majoritairement à temps partiel, parfois dans des conditions extrêmement précaires, et l'égalité salariale n'est toujours pas là, hein, parce que les hommes et les femmes ne travaillent pas dans les mêmes métiers. Les métiers où travaillent traditionnellement les femmes ne sont pas reconnus comme étant qualifiés. Savoir s'occuper de gamins, savoir coudre, savoir nettoyer, etc., c'est considéré comme des qualités individuelles de la personne féminine et pas du tout comme quelque chose qui peut être rémunéré comme une qualification salariale. Ça, c'est une des origines essentielles de l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes pour de vrai égal.
Alors, ça signifie qu'en presque 30 ans, la situation n'a pas beaucoup évolué finalement.
Je pense que la situation, elle a évolué chez les jeunes. Je pense qu'il y a plus de jeunes hommes qui prennent au sérieux leurs responsabilités parentales. On voit une augmentation du nombre d'hommes qui travaillent à temps partiel et j'aimerais bien que ça soit lié au fait qu'ils prennent plus de temps pour s'occuper des enfants parce que je pense que c'est y compris très important pour les enfants. Pour le reste, sur cette question de l'inégalité salariale et de la répartition des tâches domestiques, malheureusement, on doit constater que les choses n'ont pas beaucoup bougé et que quand nos responsables politiques et gouvernements utilisent l'argument de l'égalité, c'est généralement pour faire de l'égalité à l'envers. Par exemple, pour augmenter l'âge de la retraite pour les femmes, par exemple, pour enlever l'interdiction qui existait avant de travail de nuit pour les femmes. Donc il faut qu'on se remette de nouveau en marche, on appelle les femmes à se remettre en marche pour redonner un coup pour essayer de faire avancer nos revendications et la défense de notre dignité dans cette société.
On entend un autre son qui parle à ce moment-là du World Economic Forum qui fait un classement sur le respect ou non de l'égalité homme-femme et qui montre que la Suisse, par rapport aux autres pays, est plutôt en régression.
En matière d'égalité homme-femme, la Suisse régresse. Selon le classement annuel du Forum économique mondial publié ce matin à Genève, si l'on est une femme, il vaut mieux vivre en Islande, en Norvège ou même au Rwanda ou au Nicaragua. La Suisse chute de la 11e à la 21e place. Cette responsable de l'étude nous explique pourquoi.
C'est parce que la Suisse ne progresse pas. Il a un bon niveau, il reste un peu dans les mêmes chiffres. Et c'est pour ça que les autres pays qui font beaucoup plus de progrès, ils sont dépassés la Suisse dans le classement.
Geneviève de Rame, comme on vient de l'entendre dans ce sujet de la RTS du 2 novembre 2017, la lutte pour l'égalité est plus que jamais nécessaire chez nous. Quelles sont les actions, manifestations que vous avez prévues pour mobiliser les femmes et les différents groupes de femmes en vue d'une éventuelle préparation de grève en 2019 ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que si on veut aller vers une grève des femmes en 2019, il faut se retrousser les manches maintenant. Donc nous avons une première échéance qui est le 1er mai où il y a eu un cortège, tronçon de cortège féministe pour commencer à exister comme regroupement de femmes. Nous avons une deuxième échéance qui est au samedi 2 juin où nous allons tenir des assises romandes pour discuter avec toutes les femmes intéressées de Romandie pour voir qu'est-ce qu'il serait, est-il possible d'aller vers une grève féministe en 2019, autour de quel thème, comment élargir ce mouvement, commencer à construire un mouvement vers une grève féministe pour 2019. Et enfin, il y a une troisième échéance qui est relativement importante aussi, même si elle est plus lointaine, ce sera après les vacances d'été, le 22 septembre, à Berne, il y a une manifestation nationale pour l'égalité, et je crois que c'est très important que les féministes s'y manifestent.
On a parlé de la mobilisation des femmes, mais les hommes, ils auront quelle place, quel rôle dans cette mobilisation et possible grève en 2019 ?
De faire tout ce qu'on leur demandera de faire. Pour nous, il est important que l'initiative de toutes ces actions soit dans les mains des femmes. Mais évidemment, nous accueillerons avec grand plaisir toute l'aide qu'ils seront d'accord de nous apporter et qui correspondra à ce que nous avons demandé.
Avec toute cette mobilisation, les assises romandes, la manifestation nationale à Berne le 22 septembre et une grève en 2019, qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous attendez comme résultat?
On aimerait intervenir sur le fait que la loi pour l'égalité entre hommes et femmes est une loi qui doit prévoir d'une part du contrôle et d'autre part des sanctions. C'est comme la loi sur la circulation routière. Si vous dites c'est limité à 50 à l'heure, que vous mettez pas de radar et qu'il n'y a pas d'amende qui vienne derrière, c'est une loi qui sert à rien. Nous voulons que la loi sur l'égalité entre hommes et femmes serve à quelque chose.
Pour conclure, qui sont les groupes qui sont pour le moment déjà mobilisés dans toute cette organisation?
Alors on est au début. La première idée autour d'une grève des femmes, une grève féministe à venir, a été votée par le Congrès des femmes de l'Union syndicale suisse au mois de janvier de cette année. Elle a été reprise dans des commissions féminines ou dans des groupements féministes. Elle fait son chemin, mais les assises vont représenter un moment très important pour que nous puissions compter, savoir combien nous serons à partager cette volonté d'organiser quelque chose.
Donc, prochain rendez-vous, Geneviève Derham, les Assises Romandes.
Absolument, vous y serez la bienvenue si vous voulez venir.
Le 2 juin.
Le 2 juin, à Pôle Sud, ici.
On sera ici, en plus. Alors, merci à Geneviève Derham pour avoir participé à la pause syndicale.
Merci à vous de m'avoir invitée.
La huelga compañera, no vayas a trabajar, para quieta un minuto, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellas madre y ellas por mí. Queremos patriarcado, nos vamos a levantar, todas las trabajadoras, mano a mano somos más. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellas madre y ellas por mí. Desde el aula y la oficina, la cocina y la cuna, las mujeres van unidas a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellas madre y ellas por mí. Las mujeres del mundo, las manos se van a dar para luchar exigiendo justicia e igualdad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellas madre y ellas por mí.
On termine avec la chanson « A la huelga campanera », à la grève campagne féminine, une chanson diffusée en Espagne à l'occasion de la grève du 8 mars. Merci beaucoup à toi, Claudia, et à Valérie avec qui vous avez préparé ce sujet, ce reportage. Vous avez rencontré même Geneviève Deram, membre du SSP, le syndicat des services publics, qui nous a parlé de la grève féministe qui se prépare en Suisse pour l'année 2019. Voilà, 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 tout est dit. Passons maintenant au monde des grèves syndicales pour découvrir ce que le monde syndical nous prépare ce mois de mai, ce début du mois de mai. Solidarité avec les grévistes français.
Les syndicats Unyavo, syndicat du service public et syndicat du personnel de transport, ainsi que de nombreuses organisations et associations, le 19 avril dernier, organisaient un rassemblement de solidarité et soutien aux mouvements sociaux en France. Réunis devant la gare de Lausanne, les militants suisses ont apporté leur soutien, tant aux cheminots français en grève que aux étudiants luttant contre la sélection et contre l'envoi des CRS dans les facultés, ainsi qu'aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes évacués violemment.
La CCT romande du nettoyage rendu obligatoire.
La nouvelle convention collective de travail du secteur du nettoyage en bâtiment a été déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral. Elle est applicable depuis le 1er avril 2018 à l'ensemble des entreprises de nettoyage de Suisse romande, soit plus de 350 entreprises employant 20 000 personnes. Elle est valable jusqu'en 2021. La convention prévoit un volet salarial avec un salaire minimum de 23,05 francs de l'heure, 25,05 francs pour Genève, jours fériés, vacances et 13e salaire compris. Les entreprises qui ne respectent pas ces minimaux salariaux s'exposent à des amendes et à des rattrapages d'arriériés. Une augmentation progressive des salaires minimums a également été négociée. Par ailleurs, il n'y aura plus de différence entre les salariés à plein temps et ceux à temps partiel. Tous jouiront des mêmes dispositions salariales. Les travailleurs pourront aussi bénéficier des 5 jours de formation. Des contrôles renforcés des entreprises ont aussi été convenus, afin de lutter contre la sous-enchère salariale dans la branche.
L'événement syndical hebdomadaire d'Unia fête ses 20 ans.
La semaine passée, l'événement syndical a marqué ses 20 ans en s'offrant une nouvelle maquette et un nouveau site internet moderne et accessible au plus grand nombre. L'hebdomadaire d'Unia a vu le jour à la veille du 1er mai 1998. Premier projet réalisé de la maison syndicale, l'événement a accompagné le mouvement ayant conduit à la création du syndicat Unia fin 2004. Un débat sur l'avenir de la presse syndicale s'est également déroulé vendredi, en présence de rédacteurs et responsables des journaux du syndicat du service public, du syndicat du personnel des transports, de la tribune de substitution, journal des syndicats des sections de Genève, Evo et Télécom. La question de la création d'un grand journal syndical roman, tel que proposé en 1918, déjà à la veille de la grève générale par le rédacteur de la revue syndicale suisse, a été abordée. Plus d'infos pour le nouveau site sur le nouveau site du journal événement.ch.
Merci beaucoup, Claudia. Et on vous remercie, Claudia et Valérie, pour nous avoir préparé cette pause syndicale du début du mois de mai. Nous parlions aujourd'hui de la grève féministe qui se prépare pour 2019. Rendez-vous avec l'actualité de la pause syndicale tous les premiers mardis du mois, comme aujourd'hui. Et ne manquez pas évidemment de descendre dans la rue ce soir, puisque nous sommes le 1er mai. C'est tout ce qu'on vous recommande, c'est ce qu'en tout cas nous recommande Valérie et Claudia qui ont préparé ce soir cette pause syndicale. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Claudia.
À bientôt.
Une belle soirée. Voici un petit peu de musique avec Elvis Presley. Number 3, you're the cutest jailbird I ever
kind of want to get my kick. Let rock. Everybody let rock. And everybody in old jail block. Put daddy to the jail, let rock. 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 Daddy to the jail, let rock.
Daddy to the jail, let rock. Du bien, ça, un petit peu de rock and roll comme il se doit selon Elvis Presley, Jailhouse Rock.
Radio Django, la rose des vents.
À 18h21, on entame cette rose des vents et nous parlons de migration avec un écrivain invité en mars par Bibliomédia dans le cadre du Printemps de la Poésie, un événement organisé sous le signe de l'exil en solidarité avec des personnes migrantes. C'est avec toi, Daniel, qu'on en parle ce soir et la poésie, semble-t-il, permettrait de mettre des mots sur l'exil.
En effet, Fabien, j'ai eu le plaisir de découvrir à cette occasion deux auteurs qui, par la poésie et le roman, ont su raconter leur exil et surtout celui des autres. Les autres étant entendus comme ceux qui n'ont pas la parole en raison de la langue, de leur statut d'étranger ou encore tombés hors de la vie.
Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Fabiano Alborghetti, un poète d'origine italienne installé aujourd'hui au Tessin. Engagé, ses écrits s'inspirent du réel pour faire exister les vies effacées. Bonsoir Fabiano Alborghetti.
Bonsoir à vous tous et merci.
Vous êtes avec nous en direct par téléphone depuis le Tessin où vous résidez. Vous avez reçu, pour ce qui est de votre parcours en 2018, le prix suisse de littérature pour Miser, un roman en vers sur l'arrivée au Tessin d'une famille italienne avec tout ça dans les années 50. À ce jour, 5 recueils de poésie traduits dans plusieurs langues jalonnent votre parcours d'écrivain. Vous avez publié en 2006 La Rive Opposée, votre premier recueil qui raconte votre rencontre avec des migrants clandestins, des poèmes qui retracent des trajectoires, des souffrances et une forme d'impuissance, même si la vie continue. 10 ans plus tard, vous décidez de redonner vie, si je puis dire, à ce poème dans une nouvelle version parue aux éditions d'En Bas en février 2018. Fabrizio Alborghetti, pourquoi ce sursaut 10 ans après? Est-ce que vous avez donné envie de réécrire entièrement ce livre, peut-être?
Donc, pour vous répondre, il faudra faire face à deux itinéraires distincts, mais d'une manière liée. Le premier est social, le deuxième est moral. Pour ce qui est le social ou politique, il faudrait noter que le premier bateau d'immigrants abordait les côtes italiennes à Otranto, en Puglia, en 1991, et il était chargé de réfugiés albanaises. On parle du numéro de 20 000 personnes sur le navire. Mais à compter de cette date, les 25 ans qu'on suivit, des millions de personnes ont essayé de gagner l'Italie ou l'Europe, ou bien l'Europe, en quittant leur pays d'origine à cause d'une guerre, de la répression politique ou plus simplement à cause de la faim. Et ils ont cherché à rejoindre la rive opposée, voilà les titres, par voie terrestre ou maritime. Oui, bien sûr, beaucoup sont... Comme on connaît, beaucoup sont morts et continuent de mourir. La mer Méditerranée est pavée de corps. Et ceux qui attendent leur but et rejoignent la terre promise se sont heurtés à des difficultés législatives, à des oppositions politiques, un refus social. Parce que pendant 25 ans, rien n'a changé. Rien n'a vraiment changé. Le départ continue. Hein, les arrivées s'éteignent encore. Et la politique, dans les coins, hein, qui joue la rhétorique, la propagande pour continuer à rien faire, et voilà.
Puis, ça, c'est la première version, hein, Fabiano.
Voilà, et exactement.
Et ça, c'est en fait ce qui fait l'objet du premier livre écrit en 2006.
Exactement, oui.
Et on serait curieux de savoir ce qui vous a conduit à réécrire ce livre en 2010, et surtout de comprendre en quoi ces poèmes répondre à un devoir de mémoire.
Alors, ici on arrive à la deuxième question, parce que je l'ai aussi écrit dans la préface du livre, avec les temps qui passaient, j'étais en train de les oublier. J'étais en train d'oublier tous les visages, tous les noms, tous les lieux. J'avais vraiment oublié tout le monde qui j'avais rencontré. Et c'était d'une manière les nier une deuxième fois. Et dans la première version du livre, en 2006, ni les noms ni les indications géographiques ont été mises. C'est là pour se focaliser sur l'ampleur de la migration sur le monde. Et dans la version réécrite, je voulais rappeler chaque personne, visage, âge et lieu. Et voilà, je voulais faire ça 10 ans après.
10 ans après. Lorsque vous dites que ces personnes ont été quelque part niées par l'histoire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ça veut dire que la tendance générale est d'oublier facilement. Il n'y a plus de permanence ou de rétention, rien du tout, de celui qui nu s'écoulait plus. Si le regard est ramené à voir, si l'attention est ramenée à ses souvenirs, alors il est encore possible de se plonger, de s'immerger dans la mémoire. Et voilà, l'histoire gagne si personne perd, comme on dit, la ligne de l'horizon.
En plus, on est dans un système qui rend ces personnes plutôt invisibles. Dans La Rive opposée, chaque poème est une voix et chaque voix est une histoire. Des poèmes pour humaniser des vies effacées, comme celle de Rayan, un jeune Algérien de 22 ans dont vous avez traduit le récit en prose. On va lire un extrait de l'un de votre recueil de poèmes. Le nom était écrit en recommençant à la ligne, mais mieux vaut être mal compris qu'avoir les points liés et être renvoyé. « Je suis un homme légal, disait-il, en dépliant le papier. Je suis un corps avec un nom et je n'ai de valeur qu'écrit. Un homme à appeler pour ce qu'il est, avec le nom du sang, même si le droit à la paix s'obtient sur le papier ou sur le marbre et que cela suffise. » Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce témoignage, Fabiano ?
Le déni d'identité est la première et atroce démarche vers l'annulation. C'était vrai à l'époque, ceci reste vrai maintenant, et comme on l'apprend grâce aux reportages journalistiques, même la terminologie déplace l'attention et par conséquent la compréhension du phénomène. Et regardez, les réfugiés et les migrants n'existent plus. Ils sont effacés. Maintenant, nous n'avons que des migrants économiques. Et voilà, on a déplacé la terminologie pour s'oublier du phénomène. Et au niveau de la responsabilité nationale et politique, c'est une nomination très importante, même si elle apparemment est subtile. Et les confins déplacés, l'identité est réécrite, la catastrophe est patinée, au pire déguisée.
Absolument. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que finalement, la valeur d'un homme se réduirait aussi à un bout de papier. Et c'est ce qui ferait l'essence de l'humanité aujourd'hui.
Mm-hmm. Mais sans papier, nous sommes presque apatrides, dépouillés de la provenance, de la mémoire et de la possibilité. En tant que personne, il semble évident de dire que c'est la réalité. Nous vivons par accumulation des faits, nous vivons en devenant mémoire, et à la fois de notre personnel et de celui des autres. Et l'annulation conduit à l'invisibilité.
Absolument. Ce livre, Fabiano, est le résultat d'une expérience de partage. Comment est-ce que vous avez rencontré ces hommes qui ont fait l'objet d'un recueil de poèmes et pourquoi ?
L'invisibilité et les silences peuvent être assourdissants. À cours de cette année-là, j'ai travaillé comme employé, quand j'étais un concierge des Clés d'Or, dans un grand hôtel de luxe, dans les 120 000 ans. Et c'était un travail avec des horaires très spécieux, en dehors des heures normales des gens ordinaires. Et à ce moment-là, j'ai réalisé l'existence d'une contre-population, un flux tombé hors de la vie, comme bien on est connu. J'ai décidé de vouloir savoir en plus, et voilà, j'ai fait des tentatives, ratées ou pas, d'abord rejetées, puis en contact. J'ai contacté des personnes, et j'ai expliqué mon désir de comprendre, et après, bien sûr, d'écrire.
Mais comment est-ce que vous avez été reçu par ces personnes ? Parce que c'est vrai que ça reste des milieux difficiles à pénétrer, et on a peur de l'autre.
Mais oui, bien sûr. Il y avait pas de confiance du tout. Ils refusaient moi comme personne, moi comme identité sociale, politique, qui pouvait les mettre d'une façon en danger. Et c'était question d'écouter, de parler, de résister. De leur faire présent qui leur vie n'était pas une présence fantôme, pas une accumulation des sons ou quelque chose comme ça, mais un résumé humain qu'il fallait compter.
De 2001 à 2003, vous avez partagé le quotidien de ces migrants clandestins. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de vie commune ?
C'est difficile. Comme il écrit dans la préface, la criminalisation des migrants par les médias n'est pas rencontre de l'autre côté de la médaille, qui est un côté positif plus vaste que l'on peut imaginer. Et c'est un côté invisible surtout. On parle rarement de l'invisibilité. Et regarder l'autre côté de la médaille...
C'est regarder beaucoup d'humanité, je crois.
Absolument, absolument, absolument. Et mon approche, non seulement c'était dans la relation avec les autres, mais avec l'écriture elle-même. Je suis changé, l'écriture a changé, mon regard a changé. Et voilà.
Et en parlant d'écriture, finalement, pourquoi est-ce que vous avez choisi la poésie pour rendre visible l'invisible ?
Parce que c'est une très bonne question. Parce qu'avec la poésie, on peut d'une manière donner un autre regard. On peut arriver à parler de l'épopée. Et ici, nous parlons d'une épopée. Les migrants sont les nouveaux Ulysse, mais sans aucune terre qui les atteint ou où ils peuvent retourner. Et l'invisible, les non-dits, ne peuvent trouver un poids spécifique grâce à la poésie, dans mon point de vue. Et parce que la poésie suggère, évoque, soulève des questions, mais pousse le lecteur à trouver des réponses. Ce n'est pas la poésie qui donne des réponses. Il n'y a pas de réponse prête et c'est le lecteur qui doit la trouver.
Et est-ce que vous vous êtes vous-même rendu invisible pour écrire ce livre quand vous avez vécu en immersion avec ces migrants ?
Absolument.
Mais est-ce qu'ils savaient que vous alliez écrire ce livre ou pas ?
Pas au début, et puis oui. J'ai bien dit tout le projet, j'ai expliqué les projets entiers et ils ont bien accepté ça. Ils ont bien accepté ça. Et la question, c'était d'être invisible, d'être un fantôme pour... J'étais déjà en présence intrusive dans leur vie. Alors, la question, c'est faire du silence, écouter, vivre avec eux, partager le plus possible, n'est pas être une présence du danger.
Est-ce que vous pensez que, de manière générale, en Europe, les Européens qui ont peur des autres devraient faire ce type d'expérience pour mieux apprivoiser justement les migrants et comprendre qu'au final, je veux dire, on est tous égaux ?
C'est difficile. C'est vrai qu'on a
On a tous des craintes, il faut l'avouer.
Oui, mais non, l'être humain a des limites, et je le sais. C'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a encore qui sont tellement plongés dans le racisme qui, pour aucune raison, seront disponibles à s'ouvrir à l'autre, à l'ailleurs. Et il y a quelqu'un qui d'autre côté est disponible à partager, à s'ouvrir, à garder, à unir les langues. Réaliser que l'autre n'est pas toujours en danger, mais c'est la possibilité d'apprendre quelque chose de riche.
De l'autre.
Riche. Oui, voilà.
Justement, c'est une forme de sagesse. Et on va faire un clin d'œil à ce magnifique monsieur dont vous parlez dans votre livre, qui s'appelle Mohamed, un monsieur d'origine marocain, qui est une figure emblématique de la rive opposée.
Oui.
Il disait « Nos vies sont trop brèves pour durer dans quelque chose » et en parlant, il montrait les papillons. Ils disparaissent vite, disait-il à voix basse, au bout de quelques jours seulement. À bien y réfléchir, nous avons le même destin, mais avec moins de légèreté. Pour conclure, pensez-vous, comme Mohamed, que nous avons le même destin que les papillons ?
Les papillons vivent dans la fragilité et la défense, à la fois les changements qui les voient devenir et la beauté. Et la fragilité elle-même fait partie de leur beauté. Et pour les hommes, c'est pareil, oui. Mais avec une différence substantielle. La fragilité doit être encore apprise. Nous nous sommes habitués à la nier. Les fragiles doivent être défendus. Et nous avons le même destin, oui, mais nos ailes sont souvent aveugles.
Merci beaucoup, Fabiano.
La Rive opposée, hein, publiée par les éditions d'Amba en 2018, raconte le parcours de ceux qui ont pu gagner dans les années 2000 l'Italie ou l'Europe par voie terrestre ou maritime. Des trajectoires, Daniel, où la fragilité reste un luxe. Hein.
En effet, Fabien, parlant de fragilité, j'aimerais ponctuer cette rencontre sur ce poème de Fabiano Alborghetti, écrit en souvenir d'Agon, originaire d'Albanie, qui disait « La fragilité n'est pas permise ». Dans l'obscurité, la voix infiniment seule disait ceci. Elle laissait au silence une tentation d'humanité et dans ce silence, une ultime résistance nous répondait.
Je crois que c'est effectivement une belle conclusion. La beauté et la force de ce recueil de poèmes résident dans son humanité et sa capacité à faire exister et donner une voix à ceux qui tombent hors de la vie. Une expression chère à notre invité de ce soir, Fabiano Alborghetti, qu'on remercie. Une très bonne soirée à vous, au Tessin.
À vous-même, merci bien et merci pour l'invitation.
À très bientôt, merci à vous. Un recueil de poèmes pour humaniser des vies effacées qu'on peut trouver évidemment dans toutes vos librairies préférées. Merci également à Daniel pour la préparation de ce sujet, un sujet que vous pouvez retrouver et réécouter sur notre site www.django.fm. On termine avec un petit poème de Armohom Amar, qu'on écoute d'ailleurs.
کس که از او چرخ و هوا رقص کنند جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در همون است نیکو نگرش که همچو ما مفتون است هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خورشید خوشه
Un poème signé Armand Amar, il se nomme « Poème des atomes » pour clore cette rose des vents de ce mardi 1er mai, 18h41, on passe à cultiver Lausanne.
Radio Django, culture.
Et c'est avec toi Jean-Luc, bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir nous parlons cinéma et musique avec le Cinéma City Club, puisque Radio Django suit avec intérêt la vie de cet espace culturel et de rencontre, hein, devenu incontournable dans la région lausannoise. Et ce soir nous en parlons avec Nicolas Witwer, bonsoir.
Bonsoir.
Tu es chargé de communication et tu nous présentes les événements marquants de cette saison printanière 2018.
Oui, alors avant de nous présenter le programme, quel regard portes-tu sur l'évolution de cette dernière année ? Qui a vu le City Club se développer, un public de plus en plus régulier et trouver ainsi une assise financière.
Oui, alors c'est vrai que ce qu'on peut dire un peu tout de suite, c'est assez remarquable, c'est qu'on n'a jamais eu moins de spectateurs. Donc depuis qu'on a réouvert la salle en 2011, on a chaque fois progressé d'année en année. On ne s'est jamais reposé sur nos petits lauriers, mais on a toujours essayé de vraiment de progresser, de faire en sorte que ça fonctionne et que le public vienne. Ça porte ses fruits, vu qu'effectivement, on a toujours plus de spectateurs qui viennent au City Club. Mmh. Donc ça, c'est un premier point déjà très positif.
Et puis, alors, après 7 ans d'existence, qu'est-ce qui, à ton avis, est la clé du succès du City Club ?
Ah, il y a beaucoup de choses, mais la détermination et la passion, c'est presque la même équipe depuis le début de la réouverture. Donc, c'est fait que tout le monde est vraiment extrêmement attaché à cette salle, à faire en sorte qu'on programme de bons films, qu'on propose de bons concerts, qu'on ait aussi un peu une scène de découverte pour à la fois des premiers films ou des concerts qui tournent peu en Suisse, etc. Donc, on tient ça. Et donc, je pense que c'est vraiment à la fois la détermination de jamais lâcher, parce que c'est difficile de tenir une salle de cinéma qui est un peu au centre qui n'est pas au centre d'une grande ville, je veux dire, et puis la passion avant tout. Mmh.
Et puis peut-être les soirées thématiques, hein. Connaît-il des partenariats avec les autres associations ?
Oui, alors on fait beaucoup effectivement de partenariats, c'est aussi un peu la clé, c'est-à-dire de ne pas être tout seul dans notre coin, mais de multiplier des soirées avec des partenaires, et on fait vraiment de toutes sortes. Ça peut être avec le musée d'art de Puy, on en a fait aussi avec le musée de l'Elysée, avec d'autres avec la Cinémathèque, etc. Donc on essaie vraiment de multiplier les partenariats à la fois musique, cinéma. Enfin.
Et d'ailleurs, il y en aura justement deux, non, il y en aura même plusieurs dans ces deux prochains mois, hein, puisque c'est la période de printemps, Jean-Luc.
Oui, alors je pense que ça serait bien que tu en cites peut-être un ou deux, quoi, parce qu'il y a le partenariat avec l'association Ratatam Plus, là, qui a l'air assez étonnant, puis aussi un autre avec la revue la psychothérapie.
La tribune psychanalytique, oui, ouais, exactement. C'est vrai que c'est ça que j'aurais dû répondre tout à l'heure, mais on a effectivement nos films qu'on projette chaque mois, nos événements, nos concerts, et puis toutes sortes de soirées événements toujours en lien avec des films. Et donc là, effectivement, le 1er juin, si je ne me trompe pas, on va projeter Le cerveau des enfants, qui est un documentaire qui revient sur le développement des cerveaux des enfants et de leur expérience en tout bas âge, qu'on propose avec l'association Ratatam Plus. On aura cette soirée en soutien, par exemple, à l'association Alma, où Marthe Keller va lire des poèmes de Pablo Neruda. Ça, c'est le 16 juin pour notre dernier événement. Et puis la tribune psychanalytique, ça, c'est aussi une soirée de débat, de discussion. On va d'abord projeter un film, et puis qui sera suivi d'une discussion avec à la fois la réalisatrice Sophia Djama, qui vient présenter Les Bienheureux, un film marocain, et puis suivi d'une...
Algérien.
Oui, pardon. Et puis suivi d'une discussion avec des membres de la tribune psychanalytique. Oui. On fait beaucoup de ces soirées comme ça, de à la fois de projection et de discussion, d'échange avec toutes sortes de partenaires.
Et puis depuis 2-3 ans, j'ai l'impression que vous avez accentué tout le travail socio-culturel. Bon, il y a les exemples de travail avec les personnes âgées, enfin les films qui sont proposés aux personnes âgées, aux jeunes, etc. Et il semble que le City Club est plus implanté quand même dans le paysage plus lié qu'au tout début.
Ah oui, parce qu'on a effectivement, oui, parce qu'on n'a jamais vraiment cessé d'aller aussi de ce sens-là, parce que le City Club c'était aussi un cinéma de quartier, donc il fallait conserver ça et pas juste montrer nos films tout seul dans notre coin, mais effectivement être un lieu de rencontre, un lieu de socio-culturel, et ça passe justement avec par exemple des séances seniors qu'on organise une fois par mois, avec des séances pour les tout petits des 2 ans, 2 à 4 ans, des un peu moins petits, 6 à 12, etc. Donc on fait beaucoup d'activités de ce type et ça fonctionne très bien. Ouais.
Nicolas Widvert, les temps forts de cette fin de saison, hein, on constate que vous avez à nouveau cette volonté de faire découvrir des réalisateurs et des réalisatrices de nombreux pays et d'explorer une variété de genres. Par exemple, jeudi 3 mai, vous allez projeter Mila de Valérie Massadian. Voilà, Mila, il sera présenté chez vous au City Club le 17 mai pour parler de son deuxième film. Cette réalisatrice a un parcours pour le moins original. Hein.
Ah oui, on peut le dire parce qu'elle a commencé, c'est une réalisatrice française qui a d'abord travaillé en tant que mannequin, en tant que photographe. Elle a fait beaucoup de portraits de femmes notamment. Elle a été aussi garagiste de vieilles motos à New York, organisatrice de concerts rap en France, éditrice, etc. Donc elle a eu une très grande vie, si on veut, ou plusieurs vies avant de se consacrer au cinéma. Et puis elle avait fait son premier long métrage Nana en 2011, qui suivait le quotidien d'une petite fille de 4 ans. Et puis là, le film qu'on propose tout le mois de mai, eh bien, c'est Mila. C'est son deuxième long métrage. Et là, c'est l'histoire d'un couple de jeunes, hein, Mila a 17 ans, son copain Léo à peine plus, et ils vivent dans une extrême précarité, ils vont tout faire pour s'en sortir, donc c'est ce quotidien difficile, et c'est le film Mila, donc tout le mois de mai.
Et Mila, de Valérie Massadian, on a la bande-annonce pour vous faire envie, ça commence ce jeudi au City Club de Puy.
Exactement.
Toi la folle, toi petite coureuse, tu te casses la gueule et tu te relèves dans un rire, mais le rire c'est un crachat à la gueule du monde. Oh le sale rire, Mila, trop belle, Mila, super. Toi la bête, quand ça prend le dessus, quand ça vient au-dessus, les je m'en fous, allez vous faire foutre, allez y voir, j'aimerais bien vous y voir. J'ai lu une phrase et c'était comme toi, comme t'es quand tu parles pas. J'en ai assez de ce qui est joli, j'en ai assez de ce qui est intime, je vogue sur des tempêtes et je coulerai sans personne pour me sauver. Cherche pas Mila, tu couleras pas, tu flottes. Oublie tous les mecs qui marchent avec des tonnes de kilos dans les pieds. Je les vois, les mecs, ils se plantent. Ils croient qu'ils ont le poids sur les épaules, mais c'est dans leurs pieds. Et leur bouche, elle est dans leurs pieds aussi. Et les poings pour frapper, dans les pieds. Alors bien sûr, ça marche pas bien. Tu captes ? Attends, je recommence. On est là, on sait pas où on en est, mais on sait où on est. On est partout ailleurs. On sait toi avec tes je m'en fous, je flotte. Moi avec mes pieds comme les autres. Un coup vers le fond, un peu vers le vent. Hop là. Prends-moi, Mila, soulève-moi juste un peu. J'irai partout avec toi et t'invite qui tu veux, 1000 gamins si tu veux, les cheveux au vent qui chialent bien bien fort. Regarde, regarde, écoute Mila, écoute, fais comme tu veux. Bien sûr qu'autour ça se casse toujours la gueule en disant tiens-toi droite. Il suffit de bouger un tout petit peu, la tête, presque pas visible, pour que tout s'écroule, mais pas nous. Enfin tout ça tu sais déjà.
Alors, plus qu'un film, une lettre d'amour et de résistance, un baiser sur nos blessures, hein, c'est quelque chose qui apparaît à la fin de la bande-annonce. Pour toi, sont-ils représentatifs de la vie de ce jeune couple, Mila et Léo, qui, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, s'installent dans une petite ville au bord de la Manche et réinventent en fait leur vie, réinventent une vie.
Ouais, et puis un couple qui s'aime finalement, c'est peut-être ce qu'on retient de ce film. Ils ont une vie extrêmement difficile, un quotidien très, très dur, très précaire, et en même temps, bah, c'est l'histoire d'un couple aussi qui fait tout pour s'en sortir. Et c'est un film extrêmement délicat qui fait beaucoup de plans très, très longs. C'est pas du tout ennuyeux pour autant, mais disons qu'il y a un vrai travail photographique, une mise en scène extrêmement précise pour montrer. C'est pour faire un portrait finalement de ce couple et un mot aussi sur cette actrice qui est assez extraordinaire, Séverine Jonquière, et c'est en fait son tout premier rôle au cinéma. Elle n'avait pas joué avant, elle avait plus ou moins une histoire similaire au personnage qu'elle interprète, et la réalisatrice l'a trouvé simplement en distribuant un peu des flyers à droite à gauche, en faisant un casting, et puis elle est tombée sur cette actrice qui tient son tout premier rôle au cinéma devant une caméra.
Mais ça fait un peu penser au frère Ardenne, là, de Dardenne en fait, sur un...
Oui, oui, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais la réalisatrice Valérie Massanian se défend, guillemets, de, enfin, se défend, c'est peut-être pas le bon terme, mais n'a pas envie de faire non plus du Dardenne, parce qu'il y a aussi une part de poésie. Hein, c'est pas uniquement un cinéma, j'ai envie de dire, naturaliste ou voire misérabiliste. C'est un film aussi extrêmement joyeux et très, très optimiste. C'est Les Inrecuptibles qui a parlé de ce film comme un petit miracle. Donc, c'est pas du tout le film. Guillemets austère un peu à la Dardenne, mais c'est le film qui donne envie de vivre aussi par rapport à ce couple.
En tout cas, à découvrir, c'est vrai que les gens qui en ont parlé disent que vraiment il est extrêmement bien construit, que toutes les images sont pensées.
Le cadrage, elle est aussi photographe, la réalisatrice, et ça se sent puisque chaque cadre est extrêmement. C'est en fait des portraits à chaque fois extrêmement bien, extrêmement travaillés. Donc ça. On suit vraiment ce couple durant tout ce film avec beaucoup de tendresse, beaucoup de délicatesse. Mmh. Sera là le jeudi 17 mai à 20h pour présenter son film. Je ne suis pas sûr de l'avoir dit tout à l'heure.
Eh bien, ce n'est pas grave. On le redit le 17 mai, troisième fois. Comme ça, c'est noté. 17 mai, chez vous, au City Club depuis, pour parler de ce film Mila. Un autre événement marquant de votre programmation, c'est la soirée film et concert du 19 mai, cette fois-ci, construite autour de la situation des Touaregs au Mali et au Niger, et puis de l'extrémisme religieux qui s'installe dans la sous-région.
Oui, on a cette. Alors, c'est toujours ce qu'on fait avec ces soirées films et concerts, c'est qu'on a des artistes qu'on a envie d'inviter, qu'on a envie qu'ils viennent se produire, et puis on essaie de trouver un film qui résonne à leur thématique ou à leur pays d'origine, etc. Et là, c'est un film qu'on a intitulé Touareg, tout simplement parce que là, on va recevoir les filles de Iligadat, qui est un trio de femmes du Niger, qui jouent donc un rock folklorique avec des guitares électriques et des rythmes folklore assez dingues, assez incroyables. Et en première partie, pour accompagner ce concert, eh bien, c'est le film Tibountou d'Abderrahmane Sissako. C'est ce film mauritanien qui était réalisé en 2014 autour de Tibountou et notamment d'une famille qui est en prise avec effectivement, le mouvement extrémiste religieux qui monte.
Alors, on va tout juste écouter un extrait de la musique de ses cousines, en fait.
Les filles de Iligadat qui seront en concert donc le 19 mai au City Club de Puy.
Alors c'est le blues du désert, hein, c'est assez extraordinaire. Et il y a quand même une histoire assez étonnante par rapport à ces jeunes femmes qui viennent d'un village reculé du Niger, aux portes du Sahara. Et c'est assez incroyable parce que bon, c'est un village sans électricité ni eau courante. Et Fatou Saïdi Gali qui emprunte en cachette la guitare de son frère, hein, un instrument qui est exclusivement réservé aux garçons, hein, en principe, dans cette société. Et elle apprend à jouer de la guitare en observant les guitaristes de son village, en écoutant en boucle les sons de ses blues du désert. Et c'est assez extraordinaire, quoi, parce qu'après, elle est vraiment soutenue, semblerait-il, par sa mère et par son frère, et maintenant suivie par son cousin. Mmh. Elle a fait beaucoup de tournées, il semblerait, en Europe.
Ouais, mais c'est étonnant. Depuis peu, en plus, c'est ça que c'est un événement, finalement, de les recevoir au City Club, parce qu'elles ont commencé à jouer en dehors de leur village il y a seulement une année. Donc, ça fait qu'une année qu'elles tournent en Europe et qu'elles présentent leur musique ailleurs, finalement, que dans leur désert, dans leur village. Donc on peut voir quelques images de ces trois femmes. Elles sont absolument sublimes. Elles viennent vraiment habillées
traditionnellement.
Ouais. Et donc c'est vrai qu'elles ont commencé il y a une année plus ou moins à tourner avec leur premier album. C'est leur premier album studio qu'elles ont fait il y a quelques mois. Et puis là, il y a peut-être une année. Et puis donc c'est pour ça que c'est un événement aussi de les recevoir au City Club. Ça fait c'est vraiment une toute petite comment dire, c'est vraiment une nouveauté absolument incroyable. Ouais. Tout le monde parle d'une révolution dans cette musique touareg. Hein. On la connaît avec notamment avec Bambino ou bien Tina Riwen. Et puis elle se distingue avec c'est la guitare électrique qui revient aussi, mais avec beaucoup de rythmes traditionnels, notamment le tende qui est lié à ce Niger pastoral, qui est de la culture folklorique du Niger et qui est aussi par rapport à cette à une musique très austère, on dit, c'est-à-dire très sobre, très, très simple.
Et lancinante, hein, vraiment, ouais. Ce
rec. Et donc, elle se distingue un petit peu de ces groupes comme Bambino ou Tina Riwen, qui a rendu vraiment célèbre la musique touareg. Et puis, elle apporte peut-être beaucoup plus le côté aussi traditionnel. Donc, c'est un vrai événement de les avoir au City et de les découvrir.
C'est une première à Lausanne ou...
Oui, absolument. Ouais.
Dernier élément qu'on va aborder ce soir ensemble, c'est le 1er juin à 19h. Hein, on en parlait tout à l'heure en début de sujet. Vous proposez une rencontre cinéma en collaboration avec la Tribune Psychanalytique, une revue romande qui lie soins psychothérapeutiques et culture. Et dans ce cadre, vous projetez le film Les Bienheureux de Sofia Jama. Nicolas Vidvert, est-ce que tu peux nous présenter ce partenariat en quelques mots ?
Oui, alors c'est comme souvent, c'est effectivement des associations, des institutions qui viennent vers nous, qui ont envie de collaborer pour autour d'un film. Et puis par rapport à cet événement, la Tribune Psychanalytique a organisé un colloque sur le thème du souvenir, si je me trompe pas, qui a lieu en ce moment, qui vient de se terminer. Et puis pour conclure un peu ce colloque, eh bien on propose avec eux une soirée de projection. Et on a choisi ensemble le film Les Bienheureux, qui avait été un film sélectionné à Venise notamment, qui interroge Alger, les cicatrices de son passé, notamment par rapport à la guerre d'Algérie, et entre toutes les générations, puisqu'il y a les deux parents, par exemple, qui ont un autre regard sur le passé, la jeunesse, et notamment à travers le fils, le personnage du fils dans le film, qui a besoin aussi peut-être de repères, etc. Donc le film interroge toute cette question des cicatrices du passé, de comment se positionner aujourd'hui. Et donc on aura justement la réalisatrice qui viendra présenter ce film, qui avait reçu notamment aussi le prix du public au festival Black Movie à Genève.
De Genève, ouais.
Et puis donc la réalisatrice viendra présenter son film, et puis la tribune psychanalytique sera là aussi pour en discuter avec elle.
Nicolas Vidvert, en 30 secondes, un autre film dont tu aimerais peut-être nous parler, un coup de cœur ?
Un coup de cœur, je dirais le film Miel de Semih Kaplanoglu, qui est ce grand réalisateur turc qui avait reçu l'Ours d'Or avec son... non, c'est pas le film Miel, il avait reçu l'Ours d'Or avec son film Miel, et puis là, il revient avec Grain, La particule humaine, qui est un film dystopique en noir et blanc de 2h12, absolument sublime.
2h12 quand même.
Oui, mais même si c'est en mai, il fait extrêmement beau, il faut aller voir ce film qui est extraordinaire.
J'aimerais vous rappeler, je profite que vous êtes là, Nicolas Vidvert, pour rappeler l'importance des bénévoles dans la vie du City Club. Vous êtes toujours si nombreux ?
On est toujours si nombreux. Il y a une cinquantaine de bénévoles à l'accueil pour s'occuper de la billetterie, pour distribuer nos documents de promotion, pour faire à manger pour nos invités, pour prendre des photographies, etc. etc. J'en oublie beaucoup et ils sont effectivement primordiaux pour faire tourner ce beau lieu.
Voilà, puis pour vous contacter si vous êtes intéressé à rejoindre l'équipe des bénévoles, cityclubpuy.ch pour toutes les informations et la programmation qu'on a survolée, hein, il faut l'avouer, ce soir.
On a beaucoup de choses. Ouais. On termine en fait le 16 juin et d'ici là on a beaucoup d'événements et beaucoup de films à voir.
Et bien voilà, de quoi vous donner des envies de sortie, même si les beaux jours reviennent avec le beau temps, mais allez quand même faire un tour au City Club, vous l'aurez compris ce soir avec Nicolas Vidvert. Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup. Merci
une toute bonne soirée. Merci à Jean-Luc pour la préparation de ce sujet. Un sujet à retrouver sur notre site www.django.fm, à réécouter également avec tous les liens et les informations concernant les films dont on vous a parlé ce soir. Et on se quitte avec ces quelques notes des filles de Illy Gadad qui seront en concert au City Club le 19 mai. Et il est presque 19h sur Radio Django avec les filles d'Iligadad, Imigradan. Le grand direct s'est terminé pour ce mardi. Nous vous avons parlé de grève féministe dans la pause syndicale. Nous avons également parlé de poésie pour parler d'exil et de nouveautés, le nouveau programme du City Club depuis. C'était à l'instant dans Cultiver Lausanne. Voici le programme varié de ce soir sur Radio Django et Radio La Fabrique. Tous ces sujets sont à retrouver et à réécouter à convenance sur notre site www.django.fm. Vous les retrouvez également sur notre page Facebook Radio Django. N'hésitez pas à les partager. Allez liker, ça nous fait toujours plaisir et ça fait connaître Radio Django ainsi que les sujets qui vous intéressent. La semaine prochaine, nous parlerons largement de la nouvelle politique de culture en ville de Lausanne. Nous recevrons d'ailleurs l'adjoint au chef de service de la culture, qui se nomme Yann Rioux. Nous le recevrons la semaine prochaine, mardi, à partir de 18h précise. Le programme à retrouver et à découvrir sur notre site www.django.fm et bien sûr à écouter en direct à partir de 18h précise dans un nouveau numéro du Grand Direct qui sera écouté sur radio.django.fm et en DAB sur La Fabrique. D'ici là, retrouvez tous les sons que vous avez entendus ce soir sur notre site et puis également sur le site de La Fabrique. Je remercie toute l'équipe, Jean-Luc, Claudia et Daniel pour l'émission de ce soir ainsi que nos invités. Pour l'heure, je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectifs puisqu'il est 19h. À bientôt.
À écouter sur radio.django.fr.